19h-20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Tiroudidouda ! Oui, c'est les mystiques, c'est le piano d'Errol Garner.
Très bien.
Qui illustre le début de cette émission Conversation d'un enfant du siècle en compagnie de Christophe Onodibio. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Frédéric Becbédé.
Merci infiniment d'avoir accepté de venir
c'est
chez
moi qui vous remercie.
Et sur Radio Classique pendant une heure parler de l'ensemble de votre œuvre. Alors pour commencer l'émission, j'ai une tradition qui est d'écrire un portrait. Je travaille, j'écris un portrait, mais vous avez le droit de m'interrompre quand vous voulez pour corriger une connerie. Ou rajouter un compliment sur vous-même. Voilà. Christophe Onodibio, de l'Antiquité à la Décadence. Né le 24 janvier 1975 au Havre. Là, je me trompe pas?
Non, j'aimerais qu'on dise plutôt 2005,
oui.
Si c'est possible.
Donc vous avez 17 ans. À la fin de
Et on n'est pas sérieux quand on a 17 ans.
C'est ça. À la fin de ses études de lettres, Christophe Onodibio a consacré son mémoire de DEA aux écrivains décadents de la fin 19e siècle et, comme des Esseintes, il se passionne pour la littérature de l'Antiquité gréco-romaine. Au fond, c'est un romancier inquiet face à toutes les décadences, celles des Grecs, des Romains, mais aussi de la France actuelle. Ce travel writer voyage autant dans le temps que dans l'espace, comme s'il cherchait à créer une forme de mythologie contemporaine.
Ça, j'aime beaucoup. Non, justement, je dis rien parce que...
Parce que je suis d'accord.
Non, bah oui, l'idée de créer une... d'essayer de tenter d'écrire une mythologie contemporaine, j'aime beaucoup. En revanche, sur l'idée de décadent, en fait, les décadents, c'était plutôt... Je m'en faisais une assez haute idée, quoi. C'est-à-dire que c'est pas l'idée d'une chute, c'est plutôt l'idée d'une ascension qui finit mal. Voilà.
Très bien. On va reparler d'ascension à propos du Mont Athos plus tard. Son premier roman, Désagrégé, en l'an 2000, racontait un voyage à Cuba dont le héros, César, voulait tuer un rival à l'agrégation. Finalement, il préférait boire du rhum ensemble et faire l'amour avec des putes. Jusque-là, on est d'accord? Ah oui, mais c'était il y a 22 ans. Le monde était différent à l'époque. À l'époque, ça allait, ça passait. Vous inquiétez pas. Puis il y a prescription.
Non, mais c'était pas avec des... C'était pas tarifé, en fait.
Il me semblait qu'il
avait il faisait l'amour, mais justement avec toutes sortes de femmes et de jeunes femmes, mais notamment mais pas tarifé.
Alors j'ai dû confondre avec Michel.
Parce qu'ils
Houellebecq.
Avaient assez peu d'argent,
oui.
Puisqu'ils étaient en sac à dos, etc. Et l'argent leur servait ce qu'on ne pouvait pas avoir gratuitement, c'est-à-dire
la nourriture
ouais. et même parfois le gîte, ils l'avaient. Mm-hmm. Voilà, c'est ça qui me
D'accord.
C'était pas sur un aspect moral, c'était sur un aspect de précision des faits, en fait.
Pardon de vous avoir traité de touriste sexuel dès le début de l'émission. Onodibio révélait un style lyrique au vocabulaire recherché, dense, parfois précieux comme celui d'Arebourg. 2 ans plus tard, Interdit à toute femme et toute femelle mettait en scène un homme parti en chercher un autre au Mont Athos, où toute femme est interdite depuis le XIe siècle. Birman, prix inter alia en 2007, permettait à César de fuir en Birmanie après avoir fui à Cuba. Il finissait par y rencontrer une sorte de colonel Kurtz au féminin. Dans Plongée, grand prix du roman de l'Académie française en 2013, César est cette fois un ex-otage du Liban qui raconte la vie de Paz, une photographe espagnole retrouvée noyée sur une plage. Adaptée au cinéma par Mélanie Laurent en 2017, cette histoire d'un père qui transmet forme une sorte de diptyque avec Trouver refuge, son dernier roman dont on va parler aujourd'hui. Toujours d'accord.
Ah oui, non,
ça c'est va, très... j'ai bien
beaucoup.
Bossé, ouais. Tant mieux.
Ouais.
Dans Croire au merveilleux en 2017, César, toujours lui, veut mourir, mais il est sauvé par Nana, une jeune femme fantasque, et par son fils sur le littoral amalfitain. Enfin, dans Trouver refuge, on quitte César. Le héros s'appelle Sacha, un intellectuel menacé pour avoir révélé quelque chose sur le passé d'un président populiste surnommé Papa. Oui?
Pas encore révélé.
Non, insinué.
Il a insinué quelque chose.
Oui, et tout le livre justement se tourne vers cette question. Qu'est-ce qu'il sait
du passé du président?
Que sait-il? Quels sont ses doses?
Voilà. En fait, c'est ça. Il a des doses.
Il a des doses.
Papa n'a pas toujours été comme ça, dit-il. Il a des doses. C'est ce qu'on appelle
il
des
a,
doses.
Voilà. Il a en tout cas un manuscrit d'un livre écrit par le dénommé Papa. Ono Dibio revient sur le mont Athos, donc pour la deuxième fois, cette fois pour y fuir un régime totalitaire, élu en France en 2027. Il fantasme de nouveau sur ce lieu inaccessible, véritable jardin d'Éden, entouré de mers, 20 fortifications dans la nature où se réfugient un père et sa fille, clandestinement infiltrés. Toujours la mer, la nature sensuelle, le soleil, les parfums. Ono Dibio est un romancier écolo et minéral, ce qu'il rapproche de Camus ou Le Clésio. Toute son œuvre est une fuite dans un abri immuable, que ce soit sous-marin ou en haut d'une falaise. Un homme en quête d'humanité plus que de Dieu. Ono Dibio s'agenouille devant son enfant, elle est sa religion. Peu d'auteurs contemporains parlent aussi justement que lui de la paternité, d'en trouver refuge, comme d'en plonger. Un personnage fuit avec un enfant et il est séparé de la femme qu'il aime. Il est étonnant que le directeur adjoint, débordé et encombré de la rédaction du Point, le mari d'Alina et le père d'Alma et Hector, soit en réalité un éternel enfant du Havre sur sa falaise normande qui ne songe qu'à la plongée sous-marine, à Télémaque, à Circé, Ovide et Aristophane, aux moines barbus du mont Athos et à disparaître dans le soleil méditerranéen.
Ah, c'est superbe.
Christophe Ono Dibio, bonsoir. L'émission se termine, à très bientôt.
Ouais, mais pourrait se terminer là, parce que non, mais on termine toujours sur l'enfance. D'ailleurs, oui. Il paraît que plus on vieillit, plus on redevient enfant. Donc non, ça me fait très plaisir que vous voilà. À un moment, je me suis retrouvé à 12 ans sur les falaises d'Octeville-sur-Mer.
Oui.
Et c'est vrai que je rêvais de plongée sous-marine, de partir. De Circé déjà et de Télémaque. Télémaque, c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est le fils d'Ulysse et en fait c'est d'abord le fils qui va chercher le père. En fait, Ulysse ne revenant pas chez lui, la maman Pénélope dit à Télémaque, il faut que tu ailles chercher ton père. C'est assez beau, c'est ce retournement. Voilà, un Télémaque.
Alors, c'est dans Technic Art qui est sorti hier. Mm-hmm. Vous dites que votre père, spécialiste en géologie, vous emmenait du côté des falaises de craie du pays de Caux, où il y a énormément de fossiles. Et on a l'impression que vos livres sont tous nés ce jour-là, quand votre père vous a emmené chercher des fossiles. Alors, vous aviez trouvé des dents de requin.
Des ammonites.
Qu'est-ce que c'est, des ammonites?
Les ammonites, c'est des gros escargots, en fait. Donc, c'est là le motif de la spirale. Mmh. En fait, les falaises étaient juste en bas de notre maison. On avait quelques champs à traverser et on était 100 mètres au-dessus de la mer et je descendais avec mon père. J'y allais souvent, mais c'est vrai qu'il avait, ce marteau. Et on creusait un petit coup de marteau dans la craie de la falaise. Et c'est vrai que le fossile, c'est une image, quelque chose de bien réel.
Je vous ai pas traité de fossile, vous, personnellement.
Non, mais c'est une belle idée. C'est-à-dire que ces animaux dont on ne retrouve que la carapace magnifiquement sublimée par les époques. Toute une vie qui n'existe pas, qui n'existe plus, mais qui est là encore. Les dents de requin, les dents de requin. J'avais une petite boîte avec les dents de requin qu'on trouvait. Et c'est vrai que, 20 ans après, non plus que ça d'ailleurs, 40 ans après, il y a plongée où il est question des requins. C'est vrai que tout est peut-être né là. Ouais.
Oui, c'est-à-dire que vous avez, comme si vous étiez... le présent vous passionne en tant que journaliste, mais quand vous écrivez, vous cherchez beaucoup plus loin en arrière, ou dans le temps, ou même géographiquement, vous fuyez.
En fait, c'était géographique avant. Mmh. Je découvre des choses à mesure que je vous écoute, mais c'est vrai qu'au départ, ça passait par la géographie, d'aller plus loin, les zones grises que j'aimais, la Birmanie, les endroits dont on parlait pas, où je me disais qu'il y avait peut-être une histoire à trouver, à raconter.
Cuba,
au moment de l'ouverture vraiment touristique, donc pas encore justement ce qu'on a vu autour du tourisme sexuel énorme après. Moi, je me souviens d'un Cuba plutôt avec des files d'attente devant les magasins et les mères de famille qui attendaient de trouver du lait en poudre. Enfin, c'était pas l'image du Cuba glamour, loin de là. Et puis au fond, c'est vrai que plus le temps passe, mais peut-être que ça a été d'ailleurs votre cas.
Oui, moi,
aussi,
mais bien sûr,
Frédéric.
Bien sûr.
Plus le voyage devient un voyage dans le temps, à la recherche de peut-être l'image primordiale. Et c'est vrai que les falaises du Pays de Caux, elles sont différentes strates, quoi. En fait, un peu comme la vie humaine, et on essaie d'aller explorer strate après strate. Donc je remonte dans le temps et Et c'est vrai que c'est peut-être ça l'image des fossiles avec mon père.
Et puis je me suis laissé dire que vous aviez écrit « Trouver refuge » pendant le confinement, et donc il y avait...
Avant en fait, parce que avant, le confinement j'ai eu beaucoup de boulot à cause du journal. Ouais, oui. Le confinement, malheureusement, le confinement m'a plutôt mis en retard en fait. Ça a été dur d'écrire des lignes sur le confinement. Ce qui reste du confinement, c'est la fuite. L'idée d'une ville mise sous cloche, presque vide, et que les personnages quittent au début du roman.
Oui.
Mais ça a commencé il y a 5 ans, en fait. Exactement.
Mais c'est quand même un livre très paranoïaque, hein.
Oui.
Donc vous annoncez quelque chose qui est prévisible, politiquement, puisque ça vient de se produire en Italie.
En Suède.
Dirigeant d'extrême droite au pouvoir. Donc ça pourrait très bien arriver au prochain coup, effectivement, en 2027. Mais la paranoïa, c'est aussi quelque chose qui donne du suspense à ce livre. On se demande qu'est-ce qui attend le narrateur. Lui et sa famille sont menacés, ils sont obligés de fuir. Ils se cachent donc dans ce monastère en haut du mont Athos. Est-ce que vous sentiez une...
Je suis parano ?
Oui, est-ce que vous êtes parano ?
Ce roman est né vraiment d'une inquiétude et d'une volonté, moi aussi d'ailleurs, de trouver refuge. Il y a 5 ans, on parlait du régime de Viktor Orban, on était dans plein trumpisme, il y avait déjà une sorte de retour de figure politique ultra forte,
le
Brexit ultra forte, ultra virile, ultra menteuse. D'ailleurs, je me souviens d'une conversation avec Jonathan Coe.
Oui.
Il disait, mais en fait, ils sont en train de piquer le boulot des romanciers, parce qu'ils racontent des histoires, en fait, en plus, qui marchent vraiment bien, les gens y croient,
oui,
et les suivent, mais il y a des conséquences vraiment sur le réel, donc, alors que c'était à nous de raconter des histoires.
Tout roman est une fake news.
Oui,
voilà.
Mais tout roman est basé sur du réel, peut produire du réel. Moi, c'est vrai que j'étais inquiet en voyant réapparaître ces régimes assez forts. Simplement, quand je rends mon manuscrit en janvier, juste avant, ça s'appelle Trouver refuge, juste avant que des gens n'aillent essayer de trouver refuge en Ukraine, des familles jusque-là très normales avec leurs enfants, de partir pour essayer de trouver un abri. On met des shelters, ils le disent à l'anglaise, sous les salles de classe pour refaire classe, donc des refuges. Le droit à l'avortement contesté aux États-Unis, et puis surtout... une victoire de l'extrême droite en France. On a dit d'abord que c'était une victoire de la gauche, mais on s'est aperçu très vite que les vraies forces puissantes qui avaient gagné des millions de voix, c'était plutôt l'extrême droite. Et puis ça ne fait... Alors, je sais pas si je suis parano, mais ça ne fait que s'amplifier. La Suède, on nous parlait du... Vous vous souvenez, Frédéric, du modèle suédois, l'épanouissement,
la social-démocratie,
l'hébergement, l'ouverture au monde. Bon, le modèle suédois a accouché aussi d'une forme de... d'extrémisme de droite. Et puis, moi, je parle d'un papa, puisqu'on le surnomme papa, et on a une mama qui vient d'être élue, Madame Meloni, qui se dit « Je suis une mère, je suis une mama, je suis une femme, je suis une chrétienne. » En Italie, là, on parle de post-fascisme, mot qu'il faudrait d'ailleurs étudier. Donc, je sais pas si je suis parano.
Mais en tout cas, vous êtes devin. Vous êtes un devin.
Non, je veux dire, 2027, moi, c'est simplement, je pouvais pas écrire sur 2022, puisqu'on connaît le président actuel. Donc, 2027, c'est un léger glissement dans le temps. Et franchement, ça a été toujours à deux doigts, finalement. Il a fallu quand même bien ramer pour...
Oui.
Mais là, les digues sont en train de sauter. On le voit en Europe, ça se rapproche. Et donc, moi, en tout cas, j'essaie de...
Pas dire d'alerter, mais... D'organiser votre fuite. Vous êtes en train d'organiser votre départ.
De dire aux gens, pensez-y.
Oui.
Vous avez déjà fui au Pays Basque il y a quelques années, mais pensez-y, quel est le plan B si tout foire, si tout vrille? Où est-ce qu'on va?
Vous parlez à plus paranoïaque que vous, c'est ça. Alors, vous avez choisi comme première partie musicale Eric Satie, très bon choix, un grand humoriste, avec la Gnossienne numéro 3, interprétée par Aldo Cicciolini au piano en 1968. Je précise que Aldo Cicciolini, ça n'a rien à voir avec la Cicciolina.
Non, qui elle aussi était politiquement...
incorrect.
Plutôt incorrect, oui. Thank you.
Nous sommes toujours avec Christophe Onodibio dans un salon chez La Pérouse et sur Radio Classique pour parler de Trouver Refuge, son dernier roman publié chez Gallimard, et où, comme d'habitude, Christophe s'évade. Je pense que, Christophe, vous avez une vie tellement occupée en tant que directeur adjoint de la rédaction du magazine Le Point, et puis vous avez fait beaucoup de choses, de la télévision, de la radio, vous vous êtes beaucoup agité, et donc quand vous écrivez, c'est parce que vous voulez foutre le camp. Vous voulez vraiment changer d'époque, de voyager dans le temps, retourner dans la nature aussi énormément. Et il y a au début de Trouver Refuge une image, c'est celle d'un poulpe qui rampe vers l'océan pour retourner dans son milieu
naturel
d'origine. Ouais. Voilà. Et c'est donc vous, c'est vous. Vous êtes ce poulpe.
Je suis le poulpe et j'adore Pulp. Vous connaissez le oui. Jarvis Cocker. D'ailleurs, vous avez lui ressemblé un peu.
Et aussi Pulp Fiction.
Et Pulp Fiction. Oui, c'est une image. Ça, c'est. Ce sont des enfants qui s'amusent avec ce poulpe et qui essaient de l'empêcher de retrouver son milieu naturel. Et il est là, et je me souviens, ça, j'ai une scène que j'ai vue avec la grosse tête du poulpe qui essaie d'attraper l'anneau du quai qui va lui permettre de prendre appui pour retrouver l'océan, ou la mer Égée en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est comme ça que s'ouvre le livre, et ce Sacha dit, voilà, ce poulpe, c'est moi. Alors, je sais pas si c'est moi, mais
vous fuyez la réponse. Je pense que vous êtes vraiment
un poulpe.
En fait, quand vous écrivez, mais c'est pas un reproche. Je pense que quand vous vous mettez à l'écriture, vous mettez à, j'imagine, peut-être très tôt le matin.
Ouais, voilà. À 4 heures,
Donc là, vous avez pas envie, d'être à Paris.
Non.
Vous avez envie de foutre le camp dans votre crâne. D'être quelque part au soleil, dans une sorte
Le refuge, c'est ça aussi. C'est un moment, moi j'ai besoin du fil à plomb, vraiment de l'écriture dans cette existence, désordonnée peut-être par le travail, mais j'ai commencé d'abord en fait par écrire, avant le journalisme. J'avais d'ailleurs publié mon premier texte dans une revue que vous connaissez bien, Frédéric, parce qu'elle s'intitulait La NRV. Je connaissais personne à l'époque et je vous avais envoyé un texte. C'était le texte, c'était la matrice du roman sur Cuba.
Oui, alors je voudrais dire aux auditeurs qui nous entendent, si vous n'aimez pas Christophe Onodibio, tout ça c'est un peu de ma faute, car j'ai publié son premier texte.
Voilà.
Mais c'était une petite revue méconnue et underground.
Où écrivaient Virginie Despentes, Michel Houellebecq, Lola Lafont, le sous-commandant Marcos qui publiait des petites...
Grégoire Bouillet aussi,
exactement,
je crois, qui publiait également dans cette rentrée.
Benoît Duteurtre.
Voilà. Mais c'était bien fréquenté.
Voilà, et c'est vrai que j'ai commencé par le roman, très vite j'ai été happé par le journalisme, mais c'est un rapport au temps aussi, c'est-à-dire que je suis passionné par ce métier et par les évolutions politiques, sociétales que j'adore observer, j'allais dire au balcon presque. Mais j'ai besoin, sous peine, je le disais, de devenir fou, je pense, de retrouver comme une plongée en apnée avec le fil lesté de plomb à la verticale, de descendre un peu en moi. C'est vrai que c'est très tôt le matin, dans un état intermédiaire entre la nuit et l'aube. Et oui, j'y trouve un refuge. De toute façon, pendant ces cinq années que j'ai consumées à écrire ce livre, le refuge, ça s'appelle Trouver Refuge aussi d'abord parce que c'était l'endroit où je me sentais à l'abri. Effectivement.
Oui, oui. Mais c'est plus que ça. Je pense que c'est une quête peut-être de retour à l'innocence, de l'enfance, peut-être aussi une quête de pureté. Vous allez pas par hasard en Grèce, ça fait la deuxième fois, donc il y avait un autre livre qui se passait là-bas. Là, vous retournez au Mont Athos.
Oui.
Donc peut-être qu'aussi, c'est pas seulement un refuge, c'est aussi un besoin de silence, ou de rite. Je vais vous amener à Dieu. Vous allez voir. D'ici la fin de l'émission, vous allez vous prosterner.
De mysticisme et d'ascèse.
Oui.
On pourrait dire d'ascèse. Voilà, d'ascèse. De dépouillement. C'est vrai que ce livre est presque un dépouillement puisque il a commencé par une image qui est liée à ce que vous disiez, c'est-à-dire l'enfance. D'ailleurs, c'est né d'une image de la main d'une petite fille dans la grosse main de son père. Au milieu d'une nature absolument luxuriante, etc. Et au départ, je savais pas que c'était le Mont Athos. Et très vite, en réfléchissant sur, pour moi, c'était l'image d'un refuge trouvé par un père et sa fille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en danger. Et très vite, il m'est apparu que cette nature-là, etc., en élargissant le plan, c'était le Mont Athos, où j'étais allé quand j'avais 20 ans. J'y suis allé tous les 2-3 ans. J'y ai emmené mon fils, il y a quelques années. pas pour des raisons religieuses, mais pour peut-être des raisons de curiosité, mais peut-être de recherche d'apaisement, c'est-à-dire à quoi ressemble un monde au cœur de notre monde, mais n'obéissant pas aux règles de notre monde, où vivent des hommes qui sont parfois seuls, parfois dans des monastères, mais seuls entre le ciel et la mer, ou en haut de montagnes, ou au cœur de la nature, à contempler Dieu et à prier pour nous.
Moi, personnellement, je ne veux pas y aller parce que comme j'ai une grande barbe, j'ai peur qu'il ne me laisse pas partir.
Oui, c'est ça.
Donc c'est pour ça que je ne peux pas prendre le risque comme vous. Mais c'est drôle parce que dans cette rentrée, il y a un autre roman, celui de Laurent Godet, Chien 51, chez Actes Sud.
Qui parle de la Grèce.
Qui a beaucoup de points communs, où ça se passe en Grèce également. Et lui aussi imagine un régime de surveillance, un régime totalitaire. Dystopique. Donc il faut croire que oui, vous avez... Ça doit être dans l'air. Enfin, c'est dans l'air d'ailleurs, c'est comme on le disait
façon,
en commençant.
Vous parliez tout à l'heure du confinement, vous n'aviez pas totalement tort. Il se trouve que le confinement est passé par là et que je me souviens, alors bien sûr c'était pour le bien de tous, mais le nombre de choses qu'il a, non pas fallu, mais de toute façon que tout le monde a accepté de faire sans trop protester parce qu'il y avait une peur de la mort, parce que effectivement on le faisait pour le bien des autres. Et le bien de soi, mais quand même, je me souviens de la promenade d'un kilomètre. Enfin, c'était quand même assez hallucinant.
Ah non, mais
le
très,
fait
très
de
ne
pas pouvoir se baigner. Et donc, on a vu comme ça des populations entières
très obéissantes.
Ce que dit Papa dans le livre, il faut moins de liberté pour préserver la liberté, qui est une phrase presque orwellienne,
oui, oui.
Mais qu'on a presque entendue pendant cette époque-là. Tout ça, plus le retour des régimes autoritaires. Était totalement dans le ton de ce que j'écrivais. Donc, ensuite, effectivement, il y avait l'idée de ce grand bain de pureté ou de nature, de minéralité, d'esprit d'enfance. Ouais.
Vous savez, voilà. Vous avez étudié Huysmans, donc quand vous étiez et Huysmans lui aussi a fini au monastère.
Ouais. Bah,
donc c'est pas impossible qu'un jour vous disiez non mais je plaque tout, je laisse tout tomber les gars, mes enfants sont grands.
Je vais
aller au Mont Athos puis je vous verrai plus tous bande de ploucs, je vous laisse tous tomber.
Ah pas de ploucs, mais disons je vais sauver mon âme, c'est ça peut-être.
Oui voilà.
Bah Huysmans, vous connaissez la phrase de Barbet de Revilly sur Huysmans, c'était assez dingue. Il dit après un tel livre, donc après À Rebours, il ne reste plus à l'auteur que deux options, la bouche du pistolet ou les pieds de la croix.
Voilà, c'est ça.
Bah, je préfère dans ce cas-là la deuxième option.
Je vous le souhaite aussi.
Voilà. La bouche du pistolet, non.
Mais est-ce que aussi quand vous écrivez donc de la littérature, vous ne faites pas exprès de vous opposer à votre façon d'écrire dans la presse ou dans les médias? Je rappelle la grande phrase d'Oscar Wilde, le journalisme, la différence entre le journalisme et la littérature, c'est que le journalisme est illisible et la littérature n'est pas lue. Alors, préférez-vous être illisible ou ne pas être lu?
Je préfère être lisible, mais un livre pas lu, je trouve ça triste.
Non, c'est vrai que c'est triste.
Mais en revanche, oui, il y a l'idée du sprint quand on écrit un papier. Déjà, en plus, l'idée de sprint n'est pas contre-indiquée pour un papier. Il faut que ce soit rapide, il faut que ça fuse. La prose aussi d'un roman aussi, mais il faut qu'elle ait l'air. Il faut qu'elle ait l'air d'avoir été écrite
oui,
sans effort.
Il faut prendre son temps aussi,
voilà.
Parce que vous faites mariner le lecteur avec donc des révélations sur le président facho. Mmh. Ces révélations, on les a vraiment à la toute fin du livre.
On les découvre avec Mina. Ouais.
Et je ne vais pas dévoiler la fin du livre parce qu'il faut l'acheter. Le but de cette émission est de provoquer l'acte d'achat de nos auditeurs.
Le désir.
Oui, mais carrément, je pense qu'il faut le dire. Les gens, lisez des livres d'écrivains vivants. Ça suffit de lire des morts. Les vivants, eux, vous remercient, ils ont besoin de vous. Mmh. Les morts, bon, bah voilà, ils ont déjà eu leur moment, hein, ça va.
Mais là, je reviens sur votre question, sur la façon d'écrire. Il est vrai que moi, ce que j'aime, parce que c'est les écrivains que je lisais, que j'aimais lire, qui m'ont presque montré le chemin, mais j'aime que si je décris cette nappe, j'ai besoin qu'on l'ait sous les yeux, qu'on ait envie de la toucher. Si je décris une robe, j'ai besoin de la voir entre les mains. Si j'ai besoin
d'une écriture très sensuelle.
Voilà,
très,
il faut
très
que sensuelle. Les cinq sens soient là.
Parce ah
que
oui, ça c'est vrai.
C'est ce que permet un livre par rapport au cinéma, par exemple.
Mais même une chose qui m'a frappé puisque j'ai relu
et les
un
corps
peu,
et la peau et l'érotisme.
Oui, mais vous êtes Vous êtes assez drôle dans la vie, mais pas quand vous écrivez. Et c'est un point commun d'ailleurs avec des écrivains comme Le Clésio, ou comme Michel Déon, comme Jean d'Ormesson, qui étaient des gens plus rigolos dans la vie que quand ils écrivent. Et ça vous rapproche aussi d'Albert Camus. Il paraît qu'Albert Camus était un séducteur, un déconneur, etc. Ouais. Mais quand on lit Albert Camus, c'est toujours assez sérieux. Et vos livres sont très sérieux.
C'est sérieux.
C'est pas un reproche, hein,
mais c'est solaire. Non, mais oui, grave. Bah, de toute façon, je peux pas trop m'amuser avec la traque. Je pensais à la fuite en Égypte, là. Vous voyez, pour sans un motif biblique, en fait. Oui. Le tableau de Carpaccio avec ce père, cette femme et son enfant, qui d'ailleurs, c'est un schéma de thriller, hein, totalement. C'est une cavale.
Bien sûr,
c'est une fuite. Pour des raisons politiques, il fuit. C'est vraiment un tableau qui m'a guidé, mais je peux pas être. Je suis obligé d'être un minimum sérieux.
Il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, c'est
non.
sûr.
En revanche, je me suis beaucoup amusé avec en décrivant le système politique, par exemple, en parlant des sémènes, qui sont les anti-fémènes.
Oui.
Les sémènes qui manifestent aussi seins nus, mais avec leurs enfants abouchés à leur sein pour aller interdire des expositions qui choquent. Toutes ces phrases-là finissent par être assez drôles. Quand Donald Trump, je me souviens, disait il y avait plus de monde à mon investiture qu'à celle d'Obama, c'était faux. Mais en fait, il le disait, donc ça devenait vrai.
Oui.
Il y a presque, soit on en rit, on peut en rire un peu jaune. Ça,
mais
j'aime bien.
Bien sûr, oui, mais je veux dire que vous n'êtes pas un romancier.
Non, puis c'est sérieux, je trouve.
Cynique ou ironique.
Non.
Vous êtes pessimiste, mais vous n'êtes pas sarcastique. Et ça, c'est ce qui fait votre originalité, je crois, par rapport à beaucoup de romanciers dont je fais partie, avec Houellebecq et d'autres. Et d'ailleurs, moi-même, je lutte contre cette propension à l'ironie permanente. Hein.
Vous êtes devenu très sérieux, d'ailleurs.
Exactement, vous voyez.
Dans vos derniers livres.
Bah, et dans cette interview
roman
aussi.
Français. Oui, non, c'est vrai. Mais à partir d'un roman français.
Il y a un changement.
Parce qu'à un moment, vous vouliez. Mais oui, c'est. On peut pas. Quand on parle de choses aussi essentielles. Que qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants quand le temps manque, parce que peut-être que ce père et cette petite fille le danger est là
réel,
aussi,
oui,
sur le mont Athos. Il lui reste combien de temps? Est-ce qu'il a une semaine devant lui? Est-ce qu'il a 15 jours? Est-ce qu'il a 2 ans? Il n'en sait rien. Et quand on est sur ces sujets-là, je dirais que c'est grave, mais en même temps je veux faire passer dans cette gravité beaucoup de légèreté quand il est avec sa fille, de légèreté, d'attention à l'autre, de caresses, de protection, de connivence entre le père et la fille, entre les amants aussi, ce qui n'empêche pas d'être dans une sorte de gravité.
N'ayez pas peur d'être sérieux.
Non,
c'est pas un crime.
Non, j'essayais d'expliquer, puisqu'on est dans une émission nuancée.
Oh, merci.
Ce que c'était. Je pense qu'on peut être grave avec des moments, justement, de tendresse, même de rire. Mais la pensée de la mort est toujours là.
Mmh.
Et d'ailleurs, c'est en pensant à la mort tout le temps qu'on vit plus.
C'est très juste. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque vous avez choisi en deuxième choix, donc musical, Ella Fitzgerald, Let's Do It, Let's Fall in Love.
Voilà.
Je pense que l'enchaînement est.
C'est
absolument...
très sérieux, ça.
C'est bien organisé. c'est donc extrait de son album consacré aux chansons de Cole Porter en 1956.
Educated fleas, do it, let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets, do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it. Let's fall in love.
Ella Fitzgerald, Let's Do It, Let's Fall in Love, bien sûr.
Et Let's Do It quoi?
Elle a raison. Non, mais elle a raison.
Ah oui.
J'ai beaucoup critiqué la publicité autrefois, mais dans la bataille entre la pub et moi, c'est la pub qui a gagné.
Ouais. MMA, Business Entreprise. Benoît, un agent MMA serait dans une entreprise, c'est grave ?
Mais non, il s'est rien passé.
Un agent MMA qui se déplace ? Il doit bien y avoir quelque chose.
Non, l'accompagnement de son client sur le terrain, c'est la base du métier d'agent MMA. Visiter les locaux, faire le point sur l'entreprise, proposer des solutions d'assurance adaptées à ses besoins. Zéro tracas.
Et zéro blabla. Envoyez la pub. MMA.
Piano numérique, acoustique, silent, les plus beaux pianos vous attendent chez Nebout et Ham. Bösendorfer, Steingraber, Yamaha, Grotrian, Schimmel. Neuf ou d'occasion, venez essayer, comparer et choisir le piano de vos rêves. Pianiste débutant ou confirmé, les plus belles marques et des offres exceptionnelles vous attendent dans nos trois adresses parisiennes. Rendez-vous sur nebout-ham.com. Nebout et Ham, la passion des beaux pianos.
Si c'était un festival, ce serait un festival de piano. Si c'était un superlatif, ce serait créatif, audacieux. Si c'était une expérience musicale pour découvrir autrement une ville, ce serait Beauvais. Si c'était une carte blanche, celle de Jean-François Zigel. Si c'était une bande de complices, Michel Portal, Dan Tepfer ou Médéric Collignon. Vous la voulez dans l'ordre ? Le festival Pianoscope à Beauvais donne carte blanche à Jean-François Zigel du 6 au 9 octobre. Pour les détails, c'est sur pianoscope.com.
Si votre entourage vous trouve invivable, si vous ne supportez plus la sonnerie de votre réveil, si vous ne savez pas à quand remonte l'achat de votre matelas, c'est qu'il est temps de changer de literie.
En ce moment, l'espace Topair vous propose toutes les grandes marques de literie, Bultex, Treka, Simons, Tempur et Peda, à des conditions exceptionnelles. Alors pourquoi attendre plus longtemps ?
Espace Topair Rive Gauche, 66 rue de la Convention, Paris 15e. Espace Topair Rive Droite, 56 cours de Vincennes, Paris 12e. Topair.fr.
Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je suis toujours avec Christophe Onodibio.
Bonsoir.
Dans un salon chez La Pérouse. Nous sommes sur Radio Classique. L'émission s'appelle Conversation d'un enfant du siècle. Je suis très heureux de recevoir Christophe Onodibio, dont le dernier roman s'intitule Trouver refuge. Et nous étions en train de parler du Havre. Le Havre, ça veut dire le refuge.
Ben c'est ça.
Le Havre de Grâce. Dès le départ, vous, en fait, cette ville a entièrement marqué votre écriture. Je le pense sincèrement parce que cette ville, la ville d'Édouard Philippe, a été entièrement rasée par les bombardements au phosphore anglais, rasé pour rien en septembre 1944.
Non, il restait 40 soldats allemands.
Les Allemands étaient en dehors de la ville et le port était inutilisable avant les bombardements. Donc, de toute façon, c'était presque comme une punition pour la France, devenue des Anglais.
Oui, c'était pour des raisons économiques, de rivalité économique. Il fallait vraiment mettre à genoux cette ville. Le Havre, c'est le premier port transatlantique, vraiment. C'est le plus court, en fait, pour aller aux États-Unis. Donc, les Anglais s'en sont donnés à cœur joie. Mon grand-père était sous le tunnel Jenner, les gens s'étaient réfugiés. Voilà, vous voyez, aussi sous un grand tunnel qu'on appelle le tunnel Jenner au Havre. Ils ont bombardé le tunnel, donc les gens sont morts ou ont été écrasés dessous. Et mon grand-père, qui était très très jeune, me racontait, il était brancardier, comme il sortait les corps là-dessus. Et il me racontait comment il voyait la mer, mais depuis très très loin du Havre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus une maison, plus un immeuble pour empêcher le regard de frapper l'horizon. Il n'y avait plus rien debout. Voilà.
Je pense que c'est le sujet de votre prochain livre. C'est-à-dire un type qui a voulu fuir le Havre et qui trouve le Havre.
Voilà, c'est ça, trouver le Havre.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette émission, mais si vous ne l'avez pas fait, vous avez vraiment tort, Christophe Onodibio.
Si j'ai écouté.
Ouais. Il y a ce grand jeu que nous avons initié ici, devine tes propres citations. Donc j'ai choisi des phrases de vos livres, je vous les lis et vous devez vous souvenir dans quel livre de vous elles figurent. Est-ce que vous êtes prêt ?
Je suis prêt, tout oui.
J'ai serré les mâchoires, c'était devenu le nouveau gimmick, la virilité mise en doute, le statut de mâle contesté. J'avais travaillé toute la journée, mais évidemment je n'avais affronté nul tigre aux dents de scie, ni empalé le chef d'une tribu rivale qui me disputait un cuisseau de renne.
Croire au merveilleux.
Plongée.
C'est
2013.
Plongée. Voilà. Ouais, okay.
Plongée. La dernière phrase m'amusait beaucoup. Donc, en gros, il explique qu'il n'a pas affronté des tigres. J'étais simplement passé au Franprix, chercher du spec en descendant du bus. Vos héros sont des anti-héros,
ouais.
Un peu. Est-ce que c'est l'influence, là aussi, peut-être de Camus, de Sartre, de Céline ?
J'ai toujours trouvé plus intéressant d'écrire sur des hommes dont la puissance est contestée, et j'aime beaucoup avoir sous les yeux, dans les oreilles, et le spectacle des femmes que je trouve beaucoup plus clairvoyantes. Vous parliez d'Édouard Philippe, il m'a raconté quelque chose de très drôle. Quand il propose un boulot à un homme politique, tout de suite c'est « est-ce que tu veux pas me donner ça, ça, ça et ça en plus ?» Quand il propose à une femme, c'est « je ne sais pas si je suis légitime ». Et au fond, oui, non seulement elles sont légitimes, mais souvent plus... plus clairvoyante, plus apaisante. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes. Et c'est vrai que l'idée de virilité est un truc qui me parle assez peu. J'aime beaucoup citer Fanny Ardant, que j'ai eu le bonheur de rencontrer là par mon métier. On parlait de ça. Femme, homme, au fond, on s'en fout. Je ne me sens femme que devant un homme. Je suis pas loin de penser le contraire, réciproquement, évidemment.
Oui. Dans tous vos romans, il y a des personnages, ouais, féminins qui sont centraux, qui sont vraiment, ouais, les personnages,
et là, Mina, j'ai adoré.
Principaux.
J'adore Mina. Cette, oui, prof, oui, me fait rêver. J'aimerais revenir dans le temps et avoir Mina comme professeur, comme ça, dans cet amphi.
Enfin, vous avez eu une professeure, oui, en cinquième... qui a vraiment changé votre vie. C'était une prof de grec, c'est,
ouais,
ça ?
C'était une prof de grec, et on avait 12 ans. On n'avait pas le droit de faire du grec à 12 ans, normalement c'est plus tard. Et elle nous dispensait des cours bénévoles. Alors c'était le samedi de 12 à 13, quand le lycée était vide. Elle nous offrait d'abord un chocolat chaud dans la salle des profs vide, donc c'était le tabou, le Graal, hein. C'était entrer vraiment dans la chapelle Sixtine, quoi. Et ensuite, elle ouvrait en quelques phrases le ciel... chargé de nuages gris du pays de Caux, de Normandie. Elle le faisait se s'ouvrir en deux, et arriver le soleil de la Méditerranée, les légendes. Elle a changé ma vie, comme un de mes profs masculins, cette fois-ci, qui était le biographe de Maurice Leblanc, c'est-à-dire l'inventeur d'Arsène Lupin.
Oui, oui.
C'est vraiment le territoire de mon enfance, ça. Et Madame Briot, elle s'appelait, et Jacques Deroy. Et ces deux professeurs ont...
Ils sont toujours là, peut-être qu'ils nous écoutent, ils écoutent Radio Classique.
Et peut-être qu'ils nous écoutent, et ils ont fait vraiment dévier mon... C'est grâce à eux que j'ai fait ça.
Ouais. Oui, parce qu'en plus, mais dans tous vos livres, il y a, ouais, à la fois l'Antiquité, et il y a des enquêtes un peu avec des rebondissements, donc un peu le côté Arsène Lupin aussi.
Oui, c'est-à-dire que l'enquête, je pense que dans un... Ce qui peut faire aussi parfois l'intérêt du roman, c'est que... Moi, j'ai aimé tourner la page des livres que je lisais, avoir envie d'aller à la découverte d'un secret. Et souvent, dans les livres, non seulement on découvre le secret de l'histoire, mais on apprend énormément de choses sur soi. Mmh. Et ça vous est forcément arrivé, les gens qui disent « Ah, mais vous parlez de moi dans votre livre ». Là, je parle pas d'autofiction, mais vous parlez de moi, vous savez ce qui m'est arrivé, etc. etc. Donc, cette idée de... Ce qui est très fort chez Arsène Lupin, c'est la connaissance du territoire et des sensations. Et l'anarchie, en fait. C'est un premier personnage d'anarchie. Et donc, j'aime beaucoup cette figure, ouais, qui a beaucoup bercé mes lectures d'enfant.
Encore aujourd'hui, vous écrivez chaque semaine sur l'Antiquité, une petite rubrique minute, dans le Point, ouais, la Minute Antique, ouais, qui vous amusez, mais c'est pas évident, chaque semaine, à trouver un lien entre l'actualité présente et l'Antiquité. C'est comme si vous étiez un archéologue du présent. J'ai vu dans un journal, vous dites que les sirènes, c'est Google. Alors, oui, expliquez-moi le lien entre les sirènes et Google.
En fait, les sirènes chez Ulysse promettent la connaissance infinie. Elles lui disent, nous savons tout ce qui a été, tout ce qui sera. Aujourd'hui, Google, vous tapez sur Google, vous avez l'impression d'entrer dans un océan.
C'est quand
de
même
la connaissance totale.
Un peu moins sexy que les sirènes.
C'est beaucoup moins sexy, mais c'est tout aussi dangereux, parce que la connaissance, vouloir tout connaître de vous, y compris vos problèmes de santé, puisqu'on sait que tout est là, sans être complotiste, mais on le fait volontairement. On dit tout de notre vie sur Google, toutes nos recherches, tout ce qu'on désire rechercher est tracé.
Il y a la liste des films porno qu'on a regardés depuis 20 ans, vous imaginez ?
Voilà.
On est mal.
Donc on est mal, et les sirènes, quand on écoutait leurs connaissances, on mourait.
Oui,
eh bien voilà, donc
vrai.
Je me suis permis de faire cette petite pirouette.
Non, mais c'est intéressant, c'est marrant que vous soyez obsédé par ça, au point de chercher toujours.
Mais c'est
toujours...
pas parce que je déteste le « c'était mieux avant ». Alors ça, en revanche, l'Antiquité grecque, la place des femmes, et puis l'esclavage quand même. La fameuse démocratie grecque...
Oui, c'était pas exemplaire.
Un tout petit nombre de personnes. Il y a des esclaves, et les femmes n'ont pas voix au chapitre. Donc c'est pas le « c'était mieux avant », mais je pense que ces gens qui ont réfléchi à ce qui nous passionne aujourd'hui, l'éducation, la politique, l'amour, la famille, la guerre, la justice, bah il y a peut-être des bonnes choses à prendre.
Oui, mais ils ont inventé notre civilisation et notre notre culture. Alors le troisième choix musical de Christophe Onodibio, c'est Camille Saint-Saëns, La danse macabre, opus 40. Alors c'est l'orchestre symphonique de Pittsburgh. À propos de Pittsburgh, j'ai une citation de Mark Twain. Ouais. Il disait « I would like to die in Pittsburgh because I would not see the difference ». Voilà, donc c'est l'orchestre de Pittsburgh,
il est très doué.
Dirigé par Lorin Maazel en 1993. Christophe Onodibio est toujours sur Radio Classique dans Conversation d'un enfant du siècle. Nous sommes dans un salon chez La Pérouse et nous avons entendu, grâce à vous Christophe, Danse macabre de Camille Saint-Saëns. Ouais. Pourquoi ce choix étrange ?
C'est une des premières musiques dites classiques que j'ai écoutées avec un prof de musique. Et je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est un poème symphonique. C'est-à-dire que c'est d'abord des mots, enfin c'est une musique qui est mise sur un poème. En l'occurrence, Henri Casalis, c'est la fin du 19e, c'est l'époque décadente. On aime jouer avec la mort. Oui. À l'époque, Musset dansait même avec un squelette. Et en fait, ce poème raconte comment à minuit dans les cimetières, la mort arrive avec son violon, tape du talon sur une tombe, et les squelettes, même s'étreignent, quoi. J'allais dire font l'amour, mais... Oui, donc, oui. C'est un jeu avec la mort, c'est une affirmation finalement de la vie dans la mort. Et ça me plaît assez. Hein. Je disais tout à l'heure, plus on pense qu'on est mortel, plus on vit. Mais il s'agit de célébrer la vie.
C'est bien le problème avec ce qui s'est passé pendant la pandémie, où les gens, à force d'avoir peur de mourir, ont cessé de vivre.
Exactement.
Moi, je pense l'inverse. Alors, je vous lis encore une phrase de vous, et cette fois, j'espère que vous allez trouver.
Il disait, d'ailleurs, dans le poème, « Et vive la mort et l'égalité ». C'est vrai que c'est l'égalité pour tout le monde.
Oui. « La gorgone peroxydée à bouche peinte posa les deux pastis devant eux et leur offrit le spectacle convaincant de son énorme popotin en retournant à sa place de chef d'orchestre pour symphonie éthylique. »
Alors ça, c'est il y a très très longtemps, c'est soit désagrégé, soit Génération Spontanée.
Génération Spontanée, voilà. En 2004, voilà. Bravo, vous avez trouvé.
Ça, c'est les 20 ans à l'époque.
C'est drôle parce qu'il y a... Alors, vous aviez à l'époque une écriture presque rablaisienne, enfin une écriture très riche, vous voyez, la gorgone peroxydée à bouche peinte.
C'est presque un nom de poisson. Aujourd'hui, ça serait dans une scène aquatique, ça serait un poisson, en fait. Voilà. Ce serait une vraie gorgone.
Oui, mais vous écriviez. Peut-être vous étiez sous l'influence des écrivains décadents. Oui,
précisément. Oui, peut-être.
Stylistiquement. Alors, encore une.
On ne se renie pas.
L'œuvre d'art est la seule chose qui peut sauver l'âme, celle de la victime comme celle du bourreau, mais debout, debout, on affronte.
Ça pourrait être trouver refuge, mais
ça pourrait, mais c'est pas.
Mais c'est pas. Et donc je ne vais pas.
C'est dans le livre Nuit espagnole.
Avec Adèle Abdessemed.
Ouais. Coécrit avec ce grand artiste contemporain.
Ouais.
Et c'est vrai que alors
notre danse macabre à nous.
Oui. Ouais. Et dire ça, c'est vrai que c'est le message aussi de trouver refuge, mais. Une chose qui est inattendue chez vous, c'est que vous n'êtes pas du tout réac avec l'art contemporain.
Non.
Quand on travaille au Point ou au Figaro Magazine comme moi, on entend beaucoup de gens se moquer de l'art contemporain et vous avez une curiosité infinie pour l'art. Vous visitez beaucoup de musées d'art contemporain et je le dis parce que c'est un peu une anomalie.
Mais c'est pour la même raison. Tout à l'heure, on parlait du passé, on parlait de l'Antiquité. C'est que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le grand fil de la transmission. Et dans l'art contemporain, ça n'existe pas, l'art contemporain. Il y a des artistes contemporains, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Et puis l'art contemporain, ça veut dire l'art de notre temps. Et l'art de notre temps, il s'appuie sur des formes d'art qui sont plus anciennes. Il y a une continuité.
Non, et c'est pour ça que moi, je m'intéresse à la littérature contemporaine.
Quand vous voyez Charles Ray, par exemple, qui était exposé au Centre Pompidou, c'est un hommage à la statuaire antique, sauf qu'il prend des personnages de la vie américaine de tous les jours. Il fait des gisants. Et ça parle de l'époque. Ah bah voilà, vous en venez au grand moyen.
On ouvre le champagne parce que l'art est vivant et que nous aussi.
La continuité, la transmission. Nous ne sommes pas un produit d'une génération spontanée, même si c'était un des titres du livre. Justement, nous sommes le produit de tout un tas d'histoires qui ont été écrites avant nous. Nous en écrivons nous aussi. Des gens en écriront après. On se les transmet. Nous sommes des petits paquets d'histoires.
En vous écoutant parler, on en a en tout cas la preuve de votre conviction sur la transmission, puisque vous parlez de vos profs, vous parlez de vos enfants. Vous êtes l'exemple même d'une sorte, comment on pourrait dire, de truchement. Vous êtes un truchement, Ono Di Bio.
J'aime bien le mot de neurotransmetteur. On pense pas à mon trinque alors, voilà, à la vôtre. On entend bien ? Oui, on entend bien.
Oui, c'est scandaleux, on boit à l'antenne.
Voilà.
Merci en tout cas.
C'est du carburant.
Mais
ça aussi, c'est pareil, je veux dire, cette vigne, le champagne, ça a été produit avant, c'est produit c'est de beau, longues histoires, c'est ça qui est génial.
Oui. Alors, maintenant, je passe à ma rubrique vraiment
préférée.
C'est celle de... j'ai emprunté à Philip Roth un titre qui est Shop Talk, qui veut dire parlons boutique. Nous sommes deux confrères et on parle de nos méthodes de travail. Alors, vous avez déjà dit tout à l'heure que vous vous réveillez à 4 heures du matin pour travailler. Je n'en crois pas un mot, mais je l'entends.
Le soir, je peux pas. Le soir, après une journée, justement, plutôt pour le coup au journal, j'ai envie de faire autre chose que ça. J'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de voir ma femme, mes enfants, ou de sortir. Je peux pas. Donc, en fait, la seule façon, c'est le matin, quand il y a ce petit liquide dans le cerveau, je sais plus comment il s'appelle, qui nettoie pendant la nuit, pendant le sommeil.
Ça s'appelle l'intelligence?
Il y a un liquide, que produit le cerveau. C'est un peu comme qui fait une sorte de reset dans le cerveau.
Oui, c'est vrai. C'est
possible. Et qui fait que le matin, on se sent frais.
Ah, mais c'est vrai qu'on Tolstoï écrivait le matin, donc vous n'êtes pas le seul. Et Amélie Nothomb nous a dit ici qu'elle se réveillait aussi à 4 heures. Ouais. Peut-être que vous devriez vous appeler.
Exactement.
Il y a deux sortes de méthodes. Il y a ceux qui attendent d'avoir de l'inspiration. Vous êtes plutôt un discipliné quotidien, chaque jour.
Alors, en fait, quand dans la journée, je pense souvent au livre. Quand je marche, les personnages sont là. Quand je m'endors, par exemple, j'aime m'endormir en imaginant. Donc le lendemain, quand je dis je me lève, mais je n'écris pas 12 chapitres le matin. Ça peut être parfois 3 lignes, 4 lignes, un chapitre, un passage que je vais même pas garder, que je couperai. Oui. L'essentiel étant de se discipliner.
Chaque jour, de produire un petit peu. Mais ça, c'est vrai. C'est un très bon conseil. Vous avez un bureau ou vous écrivez partout ?
Non, j'écris à un endroit. Non, pas partout. J'écris sur un canapé. Semi-assis, semi-allongé, avec le Mac sur les cuisses.
Ah, c'est...
érotique.
Mais habillé ou...
Habillé légèrement en été.
Parce que Jean Do, il écrivait tout nu. Et Bernard-Henri Lévy aussi écrit tout nu.
Non, parce que ça chauffe le Mac, et donc je pourrais me brûler.
Alors, il s'agit...
Vous a pas amené, même pas écouter.
Non, j'ai pas écouté,
voilà.
Parce que...
Voilà.
Non, pourtant, non, votre Mac...
Bah, ça chauffe, donc si j'étais...
Ah oui, 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 c'est très dangereux.
Voilà.
Oui, ça rend impuissant, attention.
Bah oui, en plus, voilà.
Le liquide dont vous parliez, c'est le céphalorachidien.
Le liquide céphalorachidien.
On dit aussi le liquide cérébrospinal.
Voilà, c'est beau.
C'est ça qui donc vous aide.
C'est votre source d'inspiration. C'est l'épine. Donc vous voyez, c'est l'épine dorsale. On est encore dans le côté de trouver dans nos vies désordonnées une certaine rectitude de travail.
Quel est le livre que vous auriez aimé écrire ?
Le Quatuor d'Alexandrie. Donc quatre livres.
Oui.
Voilà.
Ah oui, ça c'est vrai. Mais ça ne m'étonne pas parce que ça se passe aussi en Grèce.
Ça se passe en Grèce, ça se passe à Alexandrie parmi aussi des Grecs. Ça se passe... les personnages féminins sont absolument magnifiques. Le désir est là, mais la gravité dont on parlait est là aussi. Ce sont des êtres qui sont beaucoup... Il y a ce passage du miroir que j'aime beaucoup. Le personnage va revoir au Cecil Hotel Alexandrie le miroir dans lequel il a aperçu la femme qu'il aimait, et ce miroir n'est plus, ou ce miroir est vide, il n'y a plus la salle de bal à côté. C'est Proust avec en plus une mélancolie, une légère saleté,
oui.
et le cosmopolitisme génial d'Alexandrie. Il y a l'Orient, c'est Proust plus l'Orient.
Lawrence Durrell, voilà. Le Quatuor d'Alexandrie.
Dont je parle dans Trouver Refuge. Parce
il y a
que
beaucoup de miroirs, vous savez, ici chez Lapérouse, il y a beaucoup de miroirs qui non seulement se souviennent, mais réfléchissent aussi.
Voilà.
Alors, nous avons... j'ai donc un quatrième choix. Ah, c'est une surprise. C'est une surprise.
Ça, alors ça vous allez mettre en trombe. Ça, c'est magnifique. Ouais. Parce qu'à 4h du matin, il m'arrive aussi de mettre ça avant d'écrire, en buvant mon café. Je vais pleurer là.
Onodibio est en train de chialer par terre, recroquevillé en position du fœtus.
Ah non, au contraire, ça demande l'élévation totale.
Ouais.
C'est absolument magnifique.
Ce sont les moines du Mont Athos.
Ouais, je crois que c'est les chœurs de Simono Petra. C'est un monastère qui est perché, qui ressemble à une lamasserie du Tibet. C'est absolument magnifique. Je suis arrivé là à 20 ans, pas pour des raisons religieuses. J'ai été pris dans cette époque byzantine. Et en fait, vous vous levez la nuit. C'est l'obscurité, les étoiles sont là dans le ciel. Je le raconte dans Trouver Refuge, j'adore, il est là avec sa petite fille. Et en fait, dans la nuit, il n'y a qu'une seule chose éclairée, c'est la lumière. C'est l'église, pleine d'or, de mosaïques. Et en fait...
Donc en fait, vous êtes un chrétien orthodoxe?
Non, je n'ai pas encore élucidé ça. Ce qui m'intéresse, c'est le côté littéraire de l'endroit. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi l'église est éclairée, etc. C'est que, disent voilà, le but... Notre but, c'est quand il y a la nuit pour tout le monde, nous, on tient la lumière, on garde la lumière. Donc, on allume la lumière au cœur de la nuit. Donc, on peut le voir comme, de toute façon, ça pourrait convenir à toutes les religions, à tous les combattants, à tous les résistants aussi. Donc, c'est même pas... La seule chose qui m'intéresse dans religion, c'est l'étymologie, c'est religere, c'est ce qui nous unit. Mais c'est aussi valable pour les gens qui aiment lire. C'est aussi valable pour les gens qui écoutent cette émission. C'est-à-dire, c'est le sens du combat. Le combat qui vous élève. Donc ça, oui, ça m'émeut. Parce qu'en plus, ces hommes-là chantent quoi ? Ils chantent une femme. Ils chantent l'épouse inépousée, ils chantent la Vierge. Et c'est un lieu uniquement peuplé d'hommes qui ne pensent qu'aux femmes, j'allais dire, mais à une femme. Parce que sur le mont Athos, on est dans le jardin de la mère de Dieu, comme ils disent. Donc ce sont des hommes qui chantent pour une femme qui n'est pas là. Je trouve ça magnifique.
C'est magnifique. Et c'est un très beau livre, Trouver Refuge, de Christophe Onodibio. Merci infiniment.
Merci à vous,
Christophe, d'avoir passé une heure à délirer en notre compagnie. C'est un écrivain sérieux, mais c'est un écrivain engagé. Et je voudrais lire un texte qu'a écrit Mathieu Laine, ou Lainé, je ne sais pas si on dit
Lainé. Ouais,
Mathieu Laine, qui est un intellectuel que j'aime beaucoup, qui a écrit sur vous dans le Figaro. Il y a du Gary et du Camus dans les tours et détours de ce texte alerte et cultivé ou fleuri, comme chez Mario Vargas Llosa, une certaine idée de l'être humain. Bravo pour ce dernier roman et pour l'ensemble de vos livres.
Merci Frédéric.
Un jour, vous retournerez au Havre et vous prosternerez devant les ruines de cette ville assassinée.
Mais relevée.
Et qui s'est relevée. Merci également à toute toute l'équipe technique, Philippe Gault pour la production, Matteo pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. À la semaine prochaine, vendredi 19h, je recevrai Nicolas Rey. Bonne semaine et bon week-end surtout.
Merci à vous.